On sait exactement ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour élever un être épanoui. Et tout ça, grâce aux découvertes des neurosciences. Alors je me dis que ce serait vraiment du gâchis que de ne pas les partager au plus grand nombre au sein de la société. Je m'appelle Maria, je suis maman d'un petit garçon et la fondatrice de Pereski, les cartes d'éveil visibles dès la naissance et grâce aux neurosciences. Et ce que je vous propose ici, c'est justement une bonne dose de science et de connaissances, pour sortir des croyances, pour vous aider à mieux cerner le fonctionnement inouï de vos petits, pour vous apprendre à les décoder et vous soulager la vie de parents aussi. Des experts de la toute petite enfance nous partageront leurs informations solides, fiables, objectives et des repères très concrets pour accompagner au mieux ces précieux 1000 premiers jours de la vie, sans pression, avec beaucoup de pédagogie et un brin d'empathie. Parce qu'on n'est pas parent mais qu'on le devient, je vous propose de partir à la découverte des lois naturelles de nos enfants. C'est parti! Ce premier épisode s'est imposé comme une évidence à moi. Il est une manière de boucler la boucle, de rendre un hommage aussi à celle qui a tant influencé Pereski, à celle qui l'inspire encore aujourd'hui. Elle s'appelle Sylvie. Sylvie Chocron. Elle est neuropsychologue, experte de la vision et de la cognition du très jeune enfant. Mais elle a d'abord été orthophoniste pour des personnes ayant souffert d'une lésion cérébrale. Elle a suivi en parallèle un cursus en psychologie, suite à quoi elle a enchaîné sur une thèse de neurosciences de la vision. Sylvie est passionnée par la vie et ses débuts. Elle connaît mieux que quiconque la manière dont la vue se développe et ce dont elle a besoin pour maturer. Elle a fait tant de découvertes à son sujet en 20 ans d'investigation en français à l'étranger. Je l'ai appelée un jour alors que j'étais en détresse face à mon petit qui louchait sacrément. Je l'ai appelée aussi intriguée qu'impressionnée par ses écrits. Et j'ai eu la chance de rencontrer une chercheuse aussi audacieuse que généreuse et attentionnée. Ce qui m'a tout de suite marquée chez elle, c'est qu'elle n'enferme jamais dans ses conclusions. Elle pose des questions, elle cherche à comprendre pour tenter de mieux aider. Ce qui m'a ensuite bluffée, c'est qu'elle ne fait rien comme les autres. Elle pose un regard résolument décalé et bien documenté sur chaque sujet qu'on lui soumet. Elle aide à voir autrement. À ses côtés, nous allons percer les mystères de ce sens si particulier et méconnu qu'est la vue, et qui pourtant joue un rôle déterminant dans le développement de nos enfants. Bonjour Sylvie, et merci infiniment d'avoir accepté de nouveau mon invitation et de me permettre d'inaugurer, d'ouvrir cette ronde d'interview inouïe à vos côtés. À ce micro, on va tenter de parler simple, concret et efficace pour éclairer les futurs ou les jeunes parents qui nous écoutent. Alors pour commencer Sylvie, j'aimerais que vous nous expliquiez, s'il vous plaît, ce en quoi consiste concrètement votre métier. De quoi est fait le quotidien de la neuropsychologue, experte de la vision et de la cognition du très jeune enfant que vous êtes.
Alors, bonjour Maria, merci pour cette invitation. Donc, en fait, les neuropsychologues sont des personnes qui vont s'intéresser au lien entre le cerveau et le comportement. Ce qui veut dire que... Alors que les psychologues vont vraiment s'intéresser uniquement au comportement et aux états mentaux, en fait, les neuropsychologues vont ajouter un certain nombre de questions qui sont liées vraiment à la façon dont le cerveau s'y prend pour gérer toutes les fonctions, l'attention, la mémoire, le langage, la perception, etc. Lorsque, comme moi, on s'intéresse plus particulièrement à la perception, à la façon dont la perception se développe, dont elle évolue tout au long de la vie, à la façon dont elle peut être éventuellement même gênée par un dysfonctionnement, ben, du coup, on va s'intéresser plus particulièrement à la façon dont le cerveau gère l'attention, la reconnaissance visuelle, la façon dont on analyse le monde autour de nous, la façon dont on apprend à reconnaître le monde pour pouvoir interagir le mieux possible avec lui.
Ça a l'air complètement passionnant, vertigineux aussi à la fois. Moi, j'aimerais juste rebondir sur ce que vous dites et essayer de comprendre à vos côtés pourquoi vous avez décidé de vous intéresser tout particulièrement à la perception à l'échelle du très jeune enfant.
Alors moi, j'ai commencé à travailler avec des adultes qui avaient perdu la vision à la suite d'une lésion cérébrale et qui, en quelque sorte, ne savaient plus voir. Et à partir de ce que j'ai découvert chez l'adulte, c'est-à-dire qu'on pouvait perdre un savoir visuel, j'ai peu à peu compris que finalement, on apprend à voir et on apprend à voir dès la naissance et tout au long de sa vie. Et j'ai compris peu à peu qu'on ne voit que ce qu'on a appris à voir. Et de ce fait, j'ai eu envie d'essayer de comprendre, d'une part, comment les enfants apprennent à voir, et d'autre part, ce qu'il peut arriver à un enfant qui ne pourrait pas apprendre à voir. Et donc, peu à peu, j'ai commencé à m'intéresser, là encore, à des enfants qui ne pouvaient pas apprendre à voir parce qu'ils étaient nés dans des conditions compliquées qui avaient altéré les régions qui gèrent la vision dans leur cerveau. Et donc, peu à peu, j'ai compris que ces enfants, parce qu'ils ne pouvaient pas apprendre à voir, pouvaient avoir du mal à communiquer avec le monde extérieur, à interagir avec les gens autour d'eux, à les reconnaître, à reconnaître les émotions, à reconnaître les lieux, et simplement à reconnaître tous les objets autour d'eux pour pouvoir les utiliser correctement. Et à partir, là encore, des dysfonctionnements, j'ai peu à peu commencé à m'intéresser à la façon dont on apprend à voir dès la naissance.
C'est impressionnant. Alors, du coup, plusieurs questions me viennent à l'esprit en vous écoutant, toutes celles de toute façon que vous m'avez inspirées depuis notre rencontre. On va peut-être commencer par le commencement. Les yeux, on peut être deux, ils ont beau être au milieu de notre figure, ça reste des organes dont on parle peu et qu'on va finalement peu encadrer, peu surveiller, alors que justement d'autres organes, d'autres facultés sont auscultés pratiquement à la loupe dès la naissance. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous raconter ce que nous avons besoin de savoir en tant que parents, pardon, à propos du fonctionnement de cet organe œil et à propos plus particulièrement du sens qu'est la vue?
Alors, je pense que en tant que parent, ce qui est très important, c'est d'abord de comprendre que les bébés ont une forme de vision dès la naissance. Donc, on a longtemps cru que les bébés étaient aveugles à la naissance, qu'ils commençaient à voir à 40 jours. Et ça, c'est complètement faux, évidemment. Donc, les bébés, certes, ils n'ont pas l'acuité visuelle, la précision de leur vision est bien moindre à la naissance qu'elle ne le sera à quelques mois ou à un an. Mais malgré tout, les bébés ont une vision suffisante pour pouvoir regarder les visages qui se penchent sur eux dès la naissance, pour différencier un visage d'un autre objet. Ils ont les capacités de suivre un objet qui serait bien contrasté ou un visage qui serait en train de leur parler. Et donc il faut absolument connaître les capacités visuelles des bébés dès la naissance pour pouvoir justement être conscient éventuellement qu'il y a un souci lorsque le bébé ne regarde pas. Donc, première chose importante, savoir que le bébé est capable déjà d'une forme de vision dès la naissance. Deuxième chose importante, savoir que le bébé ne choisit pas où il regarde les premiers mois de vie. Donc, pourquoi est-ce que c'est important? Parce que de 0 à 3 mois, le bébé n'a pas d'autre choix que de regarder ce qui attire son attention et ce qui est visible. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le contrôle de ses mouvements oculaires. Donc, il va regarder quelque chose qui l'attire. Et ce qui l'attire le plus, c'est le visage de l'adulte qui est en face de lui. Et ce sont également les images et les objets bien contrastés, comme Pereski, justement. Et donc, pourquoi est-ce que c'est important d'être conscient de ça? Parce qu'un bébé qui ne regarderait pas un visage ou une image très bien contrastée, ce n'est pas un bébé qui ne veut pas regarder, c'est un bébé qui ne peut pas regarder.
Très intéressant.
Donc, du coup, entre 0 et 3 mois, un bébé qui n'explore pas visuellement autour de lui, qui ne regarde pas la personne en face de lui ou qui ne regarde pas une forme très contrastée, noire, blanche, brillante, c'est un bébé qui ne peut pas la voir. À partir de là, c'est très important de pouvoir aller consulter
D'accord.
Non seulement un ophtalmologiste pour vérifier si les yeux captent bien l'image, mais peut-être même de s'interroger au-delà de l'œil, et on va sans doute en parler, sur les régions dans le cerveau qui vont permettre au bébé de voir. Car très jeune, entre 0 et 3 mois, le bébé n'a pas d'autre choix que de regarder ce qu'on va lui présenter.
C'est vraiment très éclairant et merci en effet de nous livrer toutes ces informations qui nous permettent de prendre conscience aussi bien des capacités mais aussi voilà de ce dont est capable en fait un bébé. Je vais juste du coup me permettre de m'engouffrer justement dans cette brèche que vous venez d'ouvrir. Moi j'ai personnellement été très myope très tôt dans la vie et d'ailleurs je le suis encore. Vous savez que mon petit garçon a louché pendant assez longtemps jusqu'à ses 15 mois et c'est d'ailleurs une des raisons qui m'a donné envie de vous contacter. Vous étiez clairement mon phare dans la nuit. Alors, j'aimerais savoir, Sylvie, à partir de quand il faut s'inquiéter des yeux de nos enfants et quand et pourquoi faut-il justement consulter, comme vous le disiez ?
Il faut commencer à s'inquiéter sur la vision des bébés ou des enfants lorsque l'on constate que les bébés n'utilisent pas leur regard comme ils devraient le faire. Alors, pour les parents dont c'est le premier enfant, c'est important de savoir qu'un bébé, dès la naissance, est capable de fixer un visage ou une forme très contrastée ou lumineuse. Il est capable de la suivre ou de suivre ce visage. Il est capable aussi, à partir de un mois de vie, d'explorer visuellement l'environnement autour de lui. Donc de tourner la tête, tourner les yeux et de regarder tout ce qu'il y a autour de lui.
Très clair.
Si un bébé ne se comporte pas de cette façon-là. Si vous entrez dans une pièce et qu'un bébé n'explore pas visuellement cette pièce, si vous vous penchez vers lui, que vous lui parlez et qu'il ne vous regarde pas, si vous lui montrez une image bien contrastée, intéressante, comme les images Pereski, et qu'il ne la regarde pas, alors il faut se poser des questions sur ses capacités visuelles. Et donc, dans ce cas, il faut bien évidemment montrer les yeux du bébé à un ophtalmo.
D'accord.
Mais il faut également savoir que dans les pays industrialisés comme la France, on prévient de mieux en mieux maintenant la grande malvoyance liée aux yeux, puisque vous savez que on fait très attention à des maladies qu'on appelle cécitantes et qui pourraient être contractées pendant la grossesse.
Comme par exemple,
on fait très attention à la rubéole.
D'accord.
Ou à la toxoplasmose, qui sont des maladies qui pourraient atteindre les yeux et le système visuel. On fait aussi très attention aux cécités d'origine génétique. Donc, pour les personnes qui ont des risques de cécité ophtalmologique d'origine génétique, il y a des diagnostics préimplantatoires qui sont faits. Donc, c'est sans doute pour cette raison que vous voyez de moins en moins d'aveugles dans les rues avec des cannes blanches, parce que la cécité d'origine ophtalmologique, on la prévient de mieux en mieux. Par contre, on a beaucoup d'enfants qui naissent dans des conditions difficiles de prématurité, de souffrance respiratoire autour de la naissance, de détresse respiratoire due par exemple au cordon autour du cou, due à un problème de ralentissement cardiaque parce que l'accouchement est très long ou parce que le bébé est trop jeune, parce qu'il est grand prématuré. Et donc les enfants naissent et survivent à des conditions neurologiques très difficiles, mais en contrepartie, on a un grand nombre d'enfants qui présentent des troubles qu'on appelle neurovisuels et qui sont finalement des difficultés à utiliser sa vision, dues non pas à un problème aux yeux, mais à un problème sur les voies visuelles qui vont jusqu'au cerveau ou à un problème dans les régions cérébrales qui gèrent la vision.
D'accord. Qu'est-ce qui peut être fait justement pour accompagner ces petits qui pourraient présenter ces dysfonctionnements ?
Il faut être très vigilant sur la vision des enfants entre 0 et 3 ans, et plus particulièrement entre 0 et 18 mois, parce qu'on sait que c'est à ce moment-là que le système visuel va se former, va maturer, parce que le bébé naît avec un système visuel qui n'est pas mature. C'est pour ça d'ailleurs que son acuité visuelle n'est pas aussi bonne à la naissance qu'elle le sera à un an de vie, par exemple.
D'accord.
Et donc, Pour que le système visuel se développe bien, il faut que l'œil capte l'image de façon correcte, qu'il l'envoie au cerveau et que le cerveau récupère une image correcte pour pouvoir l'analyser et pour pouvoir donner à voir au bébé quelque chose qui a du sens. Et c'est ce trajet de l'œil au cerveau et du cerveau à l'œil qui développe le système visuel. Et donc, si l'œil ne capte pas l'image correctement ou si le cerveau ne l'analyse pas correctement, c'est tout le système visuel de l'œil au cortex qui ne se développe pas correctement. Et donc, on sait que ce sera ensuite beaucoup plus compliqué, au-delà de 3 ans, de réapprendre à voir si le système visuel ne s'est pas développé comme il devrait. Alors, on pourra néanmoins stimuler ses enfants et on peut, entre 0 et 18 mois, d'une part donc être très vigilant sur la fonction visuelle des bébés, parce qu'on va pouvoir les entraîner de manière spécifique. Alors, d'une part, éventuellement corriger l'étape oculaire, l'étape de l'œil, avec des lunettes si c'est nécessaire, mais d'autre part, leur montrer des informations qu'ils peuvent voir, comme des stimuli justement bien contrastés ou des lumières dans l'obscurité, des stimuli en mouvement. C'est-à-dire que lorsqu'un enfant n'a pas la vision qu'il devrait avoir dès la naissance, on va le stimuler avec des informations qui sont particulièrement visibles et qui sont fabriquées vraiment de façon à ce que l'enfant, même avec ses difficultés, puisse les voir, pour que tout le système visuel, de l'œil au cortex, puisse être mis en jeu et puisse de la sorte se développer comme il devrait.
Quel processus subtil, incroyable, complexe à la fois. Vous dites souvent, en fait, que voir s'apprend, que ce n'est pas une faculté innée. Mais qu'est-ce que ça signifie très concrètement et qu'est-ce que l'on peut faire en tant que parent pour accompagner justement cet apprentissage ?
Alors effectivement, on pense toujours que la vision, c'est une fonction qui est simple, rapide, automatique. Vous ouvrez les yeux, vous voyez. Mmh. Et on pense toujours que ça se met en place naturellement grâce aux stimulations du milieu. Le fait est que on sait maintenant, lorsqu'on utilise cette formule, on apprend à voir et on ne voit que ce qu'on a appris à voir. C'est effectivement pour expliquer le fait que la vision est une fonction qui, dans sa part cérébrale, est une fonction cognitive comme le langage, comme la mémoire, comme le calcul. Pourquoi ? Parce qu'on sait maintenant que les yeux ne voient pas. Les yeux, ils captent l'information, mais un œil tout seul ne verra jamais. Si on avait un œil sans ces aires cérébrales visuelles, on serait incapable de voir. Pour voir, il faut un œil qui capte les rayons lumineux, mais à la sortie de l'œil, ces rayons lumineux, ils vont être transformés en un signal électrique qui va être envoyé au cerveau et le cerveau va devoir reconstruire la scène à partir de ce signal électrique. Et ce que vous avez comme image devant les yeux, ce n'est pas la photographie que vos yeux ont prise, c'est l'image qui a été reconstruite par votre cerveau en fonction de ce qu'il a déjà vu, de ce qu'il a appris à voir. Alors, je vous donne un exemple. Si vous êtes dans la forêt amazonienne, oui, et que vous devez distinguer entre 50 nuances de vert, vous allez apprendre à les distinguer. Vous aurez sans doute même des mots pour les signifier. Là où quelqu'un qui n'aurait pas grandi dans ce milieu-là viendrait et ne verrait qu'une seule couleur, du vert. De la même façon, je peux vous montrer une image dans laquelle se trouve cachée une autre image. Si je ne vous apprends pas à la voir, vous l'aurez sans cesse devant les yeux et vous ne la verrez jamais. Si maintenant je vous apprends à la voir, dès que vous verrez cette image cachée parce que vous avez appris à la voir. Et donc, de manière beaucoup plus générale, à l'époque des impressionnistes, lorsque les impressionnistes ont peint leurs premiers tableaux, les spectateurs qui regardaient les tableaux ne comprenaient même pas ce qu'il y avait à voir. ils ne voyaient même pas la mer, le ciel, le soleil, les nuages, les formes. Et on a dû leur apprendre à voir. Et peu à peu, ils ont appris à voir les formes dans les tableaux impressionnistes. Mais au départ, leur cerveau, j'allais dire leurs yeux, mais pas leurs yeux, leur cerveau n'avait pas appris à voir les formes dessinées de cette façon-là.
C'est vraiment passionnant. Merci en tout cas Sylvie pour cet éclairage. Alors moi j'aimerais juste qu'on se résume. J'aimerais vraiment que vous nous disiez comment on peut stimuler la vue d'un bébé sans jamais la surstimuler. Je vais même aller un petit peu plus loin. On sait que quand le bébé arrive au monde, il passe de l'obscurité du ventre maternel à la lumière éblouissante de la vie. Pouvez-vous peut-être nous dire de quel environnement ce petit a finalement besoin pour bien évoluer ?
À la naissance, donc le bébé arrive dans un monde où il y a énormément de choses à voir, où la lumière peut être très vive, et d'ailleurs souvent on voit les bébés cligner des yeux. Mmh. Et donc ce qu'on conseille pour pouvoir être dans une relation visuelle avec son bébé, ce qui est quand même la première relation, parce qu'au départ le bébé ne parle pas, et la seule chose qu'il va pouvoir exprimer c'est par son regard et en vous regardant. Donc ce qu'on conseille, comme le bébé n'est pas capable d'accommoder, c'est-à-dire de regarder quelque chose que vous lui présenteriez trop près de lui, on conseille aux parents de tenir le bébé à la distance vraiment d'un bras, un petit peu comme vous savez quand vous avez votre bras incliné, que vous avez votre bébé qui repose sur votre bras et que vous le tenez un petit peu à bout de bras, donc il est à une distance d'environ 30 à 50 cm de vous, avec une lumière qui correspondrait à une lumière de fin d'après-midi. Donc en général à la maternité, on a les stores qui ou les rideaux qui sont baissés un peu aux deux tiers pour avoir une lumière tamisée qui soit pas trop vive et où les reflets soient pas trop forts, parce que sinon le bébé va être très gêné par ces reflets lumineux.
D'accord.
Et donc à cette distance-là de 30 à 50 cm, dans une lumière qui n'est pas trop forte, on peut essayer de raconter des choses à son bébé, de faire des grimaces, de lui sourire. Et si on a de la chance, on va voir le bébé imiter ce que l'on fait. Donc les expressions du visage, la forme des lèvres quand on dit un i ou quand on dit un o. Donc le bébé, ce qu'il aime par-dessus tout, c'est des visages en mouvement. Donc finalement, il est programmé dès la naissance pour être intéressé par un visage face à lui, qui lui parle et qui exprime des émotions. Donc ça, c'est vraiment pour les premiers jours, les premières semaines. Ensuite, très rapidement, à partir de un mois et demi, deux mois, on va pouvoir montrer au bébé des choses. Et là, ce qui va le fasciner, ce sont des objets très contrastés, avec éventuellement une pointe de lumière, et c'est pour ça que les images Peresky, elles correspondent parfaitement à ce qu'un bébé a envie de regarder à partir de deux mois. Et donc, à partir de cet âge-là, si on lui montre ces images très contrastées, blanc sur noir, noir sur blanc, et qu'on lui raconte en même temps ce qu'il y a sur l'image, alors là, il a tout ce qui peut lui faire plaisir, des images qu'il peut voir, la voix d'un adulte qui lui raconte des choses en même temps. Éventuellement, on peut bouger l'image pour qu'il y ait un petit reflet dessus, un petit mouvement. Et là, le bébé, il a tout ce qu'il lui faut pour aller prendre des informations. Et l'autre conseil qu'on pourrait donner, c'est que les bébés se lassent très vite de ce qu'ils regardent. D'où l'intérêt d'avoir des images recto-verso, de tourner l'image ou d'en montrer une autre, quitte à revenir à la première à un autre moment, parce que les bébés ont un phénomène qu'on connaît très bien qui est l'habituation, et donc ils vont regarder quelque chose pendant un certain temps, puis une fois qu'ils seront habitués, ils vont avoir une réaction à la nouveauté, c'est-à-dire que vous leur montrez quelque chose d'autre et là, hop, vous allez canaliser leur attention. Alors, évidemment, il ne s'agit pas de montrer des choses toute la journée à un bébé non-stop, mais de temps en temps, quand vous avez envie de jouer avec lui, Vous pouvez tout à fait prendre donc des images ou des objets ou des doudous, par exemple, très contrastés. Donc, il faut arrêter de penser que les bébés vont être intéressés par les couleurs pastel, rose pâle ou bleu pâle. Ça, ça les intéresse pas du tout. Encore pire si c'est complètement uniforme. Eux, ce qu'ils veulent, c'est des bandes, du contraste, de l'alternance, du noir, du blanc, du gris, du doré, des choses qui sont encore plus visibles. Parce que il faut imaginer que déjà nous, on trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'informations à prendre dans une surface uniforme rose pâle ou bleu pâle, mais un bébé qui a une acuité visuelle plus basse que la nôtre, ça ne l'intéresse pas du tout. Et donc, du coup, lui, ce qui va l'intéresser, c'est des choses qui, au contraire, ont des contours, du contraste, éventuellement de la brillance, du mouvement. Et alors là, vous allez pouvoir capter son attention. C'est très important de lui proposer des stimuli qu'il peut voir, parce que c'est ce qui va l'intéresser. Et on sait que pour les bébés, l'intérêt, l'attention, ben c'est le début de vraiment de la stimulation sur le plan cognitif. Et donc, quitte à jouer avec son bébé, autant lui montrer des choses qui peuvent l'intéresser. Alors évidemment, on va jamais le stimuler plus de 5 minutes ou 10 minutes à la fois, mais vous allez voir votre bébé au bout d'un moment qui sourit véritablement quand vous lui montrez ces choses, non seulement qui l'intéressent, mais qu'il reconnaît. Donc il y a un intérêt tous les jours à stimuler le bébé avec des choses qui vont stimuler son attention et qui vont stimuler sa mémoire, parce qu'il sera vraiment heureux de retrouver des objets chaque jour qu'il a déjà vus, qu'il comprend, qu'il connaît et dans lesquels il va peut-être voir quelque chose de nouveau à une nouvelle présentation.
Pour rebondir sur ce que vous dites, je peux vous dire que tous les jours, je reçois des retours de la part de parents qui ont acquis justement des images Pereski et qui me racontent cette joie, cet intérêt dont vous parlez. Ils me font part aussi des retours des grands-parents qui sont complètement stupéfaits de voir qu'un petit est capable de s'émerveiller, voire de s'éveiller à un âge aussi jeune. Moi, j'aimerais vous demander, qu'est-ce qui constitue une surstimulation pour un tout petit, selon vous ?
Alors, la surstimulation d'un point de vue visuel, ce serait trop de stimulation, dans le sens trop fréquent, trop longtemps, trop lumineux ou trop d'informations.
Très clair.
Donc, il faut se méfier du trop dans tous les domaines. Donc, autant on peut… donc, nous, on conseille, par exemple, pour les enfants qui ont des soucis visuels et qu'on veut stimuler véritablement, on conseille 3 à 4 sessions de 5 minutes par jour avec des stimuli en noir et blanc, bien contrastés, comme les images Pereski. Mais même pour des enfants, vous voyez qu'on veut stimuler activement, on conseille pas plus de 4 fois 5 minutes dans la journée.
D'accord, c'est très clair et je pense que ça a le mérite en tout cas d'être dit et entendu. Vous consacrez votre vie, Sylvie, à aider des enfants qui ont des problématiques visuelles à aller mieux, en les prenant en charge le plus tôt possible, c'est ce que vous disiez en amorce de cet échange. J'aimerais savoir, qu'est-ce qu'il vous reste à découvrir sur les yeux et le cerveau des tout-petits ? Qu'est-ce que vous ne savez pas encore ?
Alors, il nous reste mais énormément de choses à comprendre. Il nous reste à savoir justement qu'est-ce que les bébés voient au sens reconnaissent dès la naissance ? Au bout de combien de temps ils reconnaissent véritablement les visages de leurs proches visuellement, hein, parce qu'évidemment, dès la naissance, il y a aussi l'odeur, il y a aussi la voix, il y a tout un tas d'informations qui se surajoutent à la vision. Et donc, c'est très difficile de pouvoir établir véritablement la part uniquement visuelle de la reconnaissance du monde qui est autour d'eux. Ce qui est fascinant, c'est de se dire que les bébés peuvent imiter les émotions qu'ils perçoivent visuellement dès la naissance, mais la grande question, c'est est-ce qu'ils les comprennent ? Donc, ils sont capables d'imiter le sourire, d'imiter un visage un peu plus sérieux, qui fronce les sourcils. Mais qu'est-ce qu'ils comprennent de l'émotion elle-même ? Donc, en fait, toutes les questions qui persistent sont vraiment des questions sur la compréhension de ce qui est vu. C'est-à-dire, à partir de quand, par exemple, un bébé est capable visuellement de faire la différence entre un bol de céréales et l'écuelle du chien avec des croquettes qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à des céréales, mais qui n'en sont pas. Donc, en fait, ce qui est très important, c'est de comprendre justement comment toutes ces fonctions vont se mettre en place et vont contribuer à la compréhension du monde. Toutes ces questions, ça reste pour l'instant des hypothèses, mais ça reste très difficile. Par exemple, on sait qu'à 3-4 mois, des bébés sont capables de préférer regarder des petits personnages qui sont en train de s'entraider plutôt que des personnages qui sont en train de se gêner.
Ah, c'est beau.
Ça veut dire qu'à 3-4 mois, ils ont compris visuellement que les personnages étaient en train d'être plutôt altruistes ou pas. Mais donc, ça veut dire qu'à 3-4 mois, il y a déjà une compréhension, une analyse visuelle des situations qui est très complexe. Et donc la question, c'est toute la dynamique, comment tout ça se met en place. Et donc ça reste quelque chose de fascinant.
Eh bien, on a hâte que vous puissiez avancer en tout cas dans ce domaine et aboutir vos découvertes. J'aimerais vous amener sur un autre sujet. On vit aujourd'hui à une époque où les écrans sont omniprésents et où nos enfants ils sont fatalement exposés de plus en plus tôt. J'aimerais savoir quelle est votre position sur ce sujet des écrans et de l'exposition du très jeune enfant aux écrans.
Alors, moi, j'ai une position qui est un petit peu qui va au-delà de ce qui est souvent évoqué. Donc, on parle souvent de l'exposition des bébés aux écrans, telle que la question que vous m'avez posée. Et effectivement, l'exposition des bébés aux écrans, elle est sans doute dangereuse pour plein de raisons. D'une part, parce qu'on présente l'écran très près des yeux du bébé, et qu'on sait maintenant que le bébé ne sait pas converger, ne peut pas regarder quelque chose qu'on lui présente à 10-20 cm de lui, c'est trop près. Donc très probablement même il voit double quand il fait ça.
D'accord.
Et l'image qui est envoyée au cerveau n'est sans doute pas une image de bonne qualité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on n'a pas encore des données parfaitement complètes sur l'effet de la lumière bleue que diffusent les écrans sur les yeux, vraiment physiquement, et en particulier les yeux des bébés. Donc, on n'a pas d'études longitudinales qui iraient de la naissance jusqu'au vieillissement et qui pourraient nous assurer qu'avoir été exposé aux écrans très tôt ne favorise pas plus tard dans la vie des cataractes, des maladies dégénératives de l'œil ou de la rétine. Donc ça, on n'a pas de données. Ensuite, on sait qu'un bébé confronté aux écrans, ça veut dire que c'est un bébé qui est confronté à des informations qui ne sont que visuelles, alors que les expériences du bébé, elles doivent être multisensorielles. Et donc, le bébé, il doit pouvoir voir, il doit pouvoir toucher, il doit pouvoir éventuellement sentir, il doit pouvoir éventuellement mettre à la bouche, il doit pouvoir faire tout un tas de choses avec l'objet qu'il regarde. Or, avec un écran, ça va pas être possible, forcément. Ensuite, on sait que l'exposition aux écrans, c'est une exposition qui se fait surtout à l'intérieur, alors que le bébé, il a aussi besoin d'être stimulé à l'extérieur, parce que l'œil, pour se développer correctement et pour éviter justement la myopie, il a besoin non seulement de voir au loin, ce qui veut dire dehors, mais aussi d'être exposé à l'air extérieur, ambiant. Et donc, à l'intérieur, l'air n'a pas la même composition qu'à l'extérieur. Et donc, il n'y a pas assez d'oxygène. L'œil lui-même va avoir tendance à être sec à l'intérieur. Et donc, on sait que la sécheresse oculaire n'est pas bonne pour la vision. Et donc, il y a aussi le milieu dans lequel l'œil baigne à l'intérieur qui n'est pas le même qu'à l'extérieur. Mais au-delà de toutes ces restrictions, il y en a une autre dont on parle très très peu, qui est le risque pour le développement du bébé de la surexposition des parents aux écrans et non pas des bébés. Parce que si vous regardez autour de vous, vous allez vous rendre compte que lorsque vous voyez des bébés avec leurs parents, les parents sont énormément sur leur téléphone. Et donc, soit ils y sont parce qu'ils sont en train de regarder des choses, des séries, sur les réseaux, etc. Donc, le bébé cherche le regard de son parent qu'il ne trouve pas parce que le parent est sur son téléphone. Parfois même, le téléphone vient s'interposer entre le bébé et le parent parce que les moments où les parents regardent leur enfant, c'est surtout pour faire des photos et des vidéos. Donc, vous avez le téléphone qui est entre le bébé et le parent, mais qui prend quasiment tout le champ visuel du bébé, parce que lui, il a un champ visuel réduit. Donc, quand vous avez un téléphone entre vous et le bébé ne voit quasiment que le téléphone et pas votre visage. Vous avez des mamans qui allaitent en étant sur leur téléphone. Et vous avez des parents qui parlent au téléphone dans la journée, énormément. Donc, moi, en ce moment, je suis très attentive à ça. Donc, je regarde dans les parcs les bébés dans leur poussette, et les parents sur leur téléphone ou en train de parler, ce qui veut dire que le bébé a une personne en face de lui qui parle, mais qui ne lui parle pas. Donc, c'est pas du langage de communication, qui ne le regarde pas. Et donc, les bébés sont en train de grandir dans une interaction où il n'y a ni communication orale qui est dirigée vers eux, ni regard, puisque normalement, la première relation, elle est vraiment visuelle et on peut passer des heures normalement à regarder son bébé. Et donc là, on est en train de perdre ça. Et donc récemment, donc je raconte toujours cette histoire parce que ça m'a beaucoup marquée. J'étais dans le métro, j'étais assise dans un carré à quatre personnes et à côté de l'autre, dans l'autre carré de quatre personnes, il y avait une petite fille qui devait avoir 18 mois, qui était assise. Il y avait trois adultes autour d'elle. Un adulte en face et deux adultes donc sur les sièges, sur les autres sièges. Oui. Pendant les 20 minutes de mon trajet, je n'ai pas su quel était l'adulte qui était avec elle. Parce que aucun de ces adultes ne lui a lancé même un regard, ni dit une parole, ni fait un sourire. Donc pendant 20 minutes, les trois adultes qui étaient assis avec elle dans ce carré de quatre places étaient sur leur téléphone.
Drôle d'époque, en effet. Mais c'est votre approche est très intéressante et je pense que nous sommes pleins à pouvoir notamment nous projeter, que ce soit dans vos propos ou dans l'exemple que vous citiez. C'est vrai que les écrans deviennent aussi le support de notre travail. Donc en effet, je pense qu'il est important de s'entendre dire ce genre de choses pour peut-être essayer de couper, d'avoir des moments où on est vraiment loin de ces écrans et totalement en contact avec nos petits, même si on sait que ce n'est bien évidemment pas toujours évident. Vous êtes, Sylvie, vous-même maman, et c'est à elle que j'aimerais m'adresser pour conclure cet échange. Vous en connaissez déjà un rayon sur les capacités des tout-petits, mais j'aimerais savoir ce que vos filles vous ont appris au moment où vous êtes devenue maman. Est-ce qu'elles ont changé quelque chose à la pratique de votre métier? Et si oui, quoi?
Alors moi, je pense réellement, honnêtement, que mes filles et mes patients m'ont tout appris. Parce que je pense que ce sont les personnes qui m'ont fait me poser le plus de questions. Et pour un chercheur, en fait, on demande toujours aux chercheurs, vous êtes chercheur, moi j'ai entendu ça 1000 fois, mais est-ce que vous trouvez? Et moi, je réponds toujours aux gens, mais vous savez, pour trouver, il faut chercher. Et donc, pour trouver, il faut se poser des questions. Et si on se pose pas de questions, on peut pas essayer de trouver les réponses à ces questions. Et en fait, mes enfants et mes patients m'ont appris tout ce que je sais, soit directement parce que je les ai observés, et puis parce que mes filles m'ont posé tellement de questions toute leur enfance, parce que en fait cette phrase qui revenait sans cesse, c'est à quoi ça sert d'avoir une mère neuropsychologue si tu peux pas nous expliquer ce qui se passe dans notre cerveau. Donc elles m'ont forcée, elles m'ont poussée dans mes retranchements pour essayer de comprendre, et encore maintenant pour essayer de comprendre pourquoi un enfant apprend, pourquoi il n'arrive pas à apprendre, qu'est-ce qu'il voit, comment il le voit, pourquoi est-ce que c'est une vue d'adulte d'imaginer imaginer que, par exemple, il faut présenter des choses simplifiées à des enfants. Vous voyez ? Donc, on pense toujours qu'il faut présenter des images très simples. Par exemple, un smiley, pour un enfant, ça a plus de sens qu'un vrai visage qui sourit. Non, c'est exactement l'inverse. Parce que un smiley, c'est une simplification faite par un adulte pour des adultes. Mais c'est pas pour un enfant, un smiley, ça n'a rien à voir avec un vrai visage. Parce que lui, il n'a pas appris forcément cette correspondance. Et donc, du coup... elles m'ont tout appris, et c'est aussi à elles que je dois mon dernier ouvrage qui s'appelle Une journée dans le cerveau d'Anna, parce que Anna, c'est la contraction des prénoms de mes deux filles, Anouk et Nina, qui sont elles-mêmes dérivées. En fait, j'ai appris que les deux prénoms dérivaient de Anna, et en fait, je leur ai dédié ce livre parce que c'est elles qui m'ont donné envie d'aller comprendre ce qui se passait dans notre cerveau au quotidien, justement à travers leurs questions. Donc, quand je dis qu'elles m'ont tout appris et qu'elles m'ont permis vraiment de moi, à mon niveau de chercheur, d'aller chercher des réponses et de me poser des questions, c'est vrai, elles m'ont tout appris. Et mes patients m'ont tout appris sur les problèmes, en particulier visuels, qui peuvent nous en apprendre plus sur comment le cerveau fonctionne quand il n'y a pas de problème.
C'était vraiment, vraiment passionnant comme à chaque fois, Sylvie. Je vous remercie pour votre temps, je vous remercie pour tous ces éclairages, pour toutes ces informations concrètes et claires que vous nous avez livrées, encore une fois, sur un sens qu'on questionne finalement assez peu. Merci aussi de nous donner à voir une autre relation à l'autre, que ce soit au bébé ou aux autres humains qui nous entourent. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.
Merci Maria.
On ne voit pas avec nos yeux, mais avec notre cerveau. Et c'est bien ça qui est étonnant. Voir, c'est s'ouvrir au monde. C'est le saisir, le sentir. C'est se connecter aux autres. Et n'est-ce pas là l'une des aventures les plus palpitantes qui nous soit donnée à vivre avec nos enfants ? En attendant de répondre à cette question, je vous souhaite de belles échappées à leur côté. Et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un autre moment rempli de trouvailles inouïes.